Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Bonjour, lecture par tous avec les collecteurs. Alors aujourd'hui, nous allons vous emmener au Brésil. Oui, au Brésil, un pays qui vit une période critique, hein, puisque le deuxième tour de l'élection présidentielle va avoir lieu le 28 octobre. Et c'est toutes les chances sont là pour... Enfin, chance, je ne sais pas si c'est une chance, hein, pour que l'extrême droite prenne le pouvoir avec Jair Bolsonaro. Un ancien militaire qui a été élu qui n'a pas été élu au premier tour, ça a failli, mais il y a eu les voix du Nord-Est qui ont voté pour le successeur de Lula, hein, le candidat du Parti des Travailleurs, Fernando Haddad, et M. Bolsonaro n'est pas passé au premier tour, mais il a de fortes chances de passer au second. Un récent sondage le donnait favori à 59%. Alors, pendant que cette nouvelle page dramatique du Brésil se tourne, nous on s'est dit, tiens, on va aller retrouver une auteure brésilienne qu'on a rencontrée début septembre. Donc quand ces élections se profilaient, on devinait déjà ce qui pouvait se passer, mais ce n'était pas encore le cas. Cet auteur, c'est Guillaumard de Gramont. Alors, vous ne connaissez pas forcément, ce n'est pas beaucoup de choses publiées en France. Il y a un volume qui est publié chez Métayer, qui s'appelle « Les ombres de l'Araguaia », dont elle va nous parler. Puis elle avait publié un premier titre beaucoup moins connu, qui s'appelait « Fugues en miroir », qui était son premier roman, qui a été publié en France. Hein. Elle a publié plus au Brésil, bien entendu, hein, et qui est aujourd'hui totalement introuvable, hein, qui est un polar avec une construction assez complexe de témoignages, de voix différentes. Voilà, un jeu de construction un peu savant, un peu tordu. Et puis donc là, qui est Guillaumard de Gramont? C'est une figure quand même au Brésil, hein, dramaturge, essayiste. C'est aussi une philosophe, hein, elle est directrice de l'Institut Philosophie, Art et Culture de l'Université de Ouro Preto au Brésil. Donc c'est une intellectuelle brésilienne, on peut dire. Elle est francophone, alors elle parle bien le français, mais bon, vous verrez un français un peu typique, un peu brésilianisé, on va dire, hein, avec cet accent inimitable du Brésil. Elle a écrit aussi plusieurs pièces de théâtre. Voilà, une écrivaine à découvrir et qui compte dans la littérature brésilienne. Alors, pour commencer, donc ce roman publié chez Métayer l'année dernière, « Les ombres de l'Araguaia ». Mais c'est quoi l'Araguaia ?
L'Araguaia, c'est une rivière qui passe en Amazonie, qui traverse l'Amazonie. Et ce roman est l'histoire d'un guerrier perdu dans la forêt amazonie. Et sa sœur est une journaliste qui lui a dit au revoir quand elle était petite. Elle ne l'a jamais revue. Et elle recherche ses traits désespérément. Elle fait des interviews, elle va à la région de l'Araguaia, à l'Amazonie. Elle lit des récits sur les guerrieros, des récits qui font partie du livre, de mon livre. Elle va, par exemple, à Cuba, voir comment les guerriers brésiliens étaient entraînés, parce qu'elle a entendu que son frère a été entraîné à Cuba. Elle fait pas mal de recherches, alors, pour enquête de la vérité, pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé avec son frère. Et il y a entre elle et sa mère une forte complicité autour de cette disparition. Mais sa mère, elle cache un secret. Elle sait quelque chose que Sofia, la journaliste, ne sait pas. Et cette révélation viendra à la fin et va surprendre aussi les lecteurs.
Ce qu'il faut préciser, c'est que
Ça se passe dans le cadre d'une guérilla maoïste dont on n'a pas beaucoup parlé.
Oui,
mais qui a bien eu lieu.
C'est un événement très mal connu au Brésil, parce qu'il a été caché par les militaires. Les militaires ont essayé de détruire tous les documents, tous les traits qui sont restés de cette guérilla, parce que il y a eu un moment donné où ils ont commandé l'extermine, l'assassinat de tous les guerriers, et ils voulaient cacher ça. Donc on commence à parler de la guérilla de la Araguaia, on commence à parler qu'à les années 85. Ça veut dire très récemment que ce mouvement a été connu. Il était dans, dans l'Amazonie, au cœur de l'Amazonie. Les guerriers, ils étaient là pour convaincre les paysans à faire une guérilla semblable à la guérilla cubaine, même s'ils étaient inspirés des maoïstes. Mais en fait...
Ils voulaient reproduire l'aventure du Che
oui,
dans la jungle.
C'est ça, c'est
ça.
La
prise de Cuba.
En fait, je dirais que mon livre n'est pas un livre politique. D'abord, ce qui m'a intéressé, c'était la forêt, les mystères de la forêt.
En le lisant, ce qui m'a frappé, c'est il y a ce carnet qui est retrouvé, on ne sait pas miraculeusement qui a échappé, et on voit toute cette épreuve initiatique qu'est pour le jeune citadin qui vient et qui découvre cette jungle, et pour la journaliste aussi qui va découvrir l'épreuve de la jungle. De la confrontation en milieu naturel qui ne fait pas de cadeau. Peut-être encore moins que la dictature.
C'est ça. C'est ça. Ce carnet, il montre... Sophia est en train de les lire et elle ne sait pas qui est l'auteur. On saura après l'identité de l'auteur. Et c'est un carnet que j'ai fait d'après plusieurs témoignages de guerriers perdus dans la forêt. Et ce qui m'intéressait, c'était les animaux, les plantes, la vie d'un homme qui ne peut pas faire de feu. Il doit survivre dans une forêt immense. Comme la forêt amazonienne.
Qui efface toutes les traces en quelques heures.
Oui, bien sûr. La coupe des arbres est tellement dense dans ces endroits-là qu'on pense qu'il fait nuit tout le temps. Hautes sont la hauteur des arbres empêche qu'on voit le ciel.
Suite l'entretien avec la question d'un disparu.
Une autre chose aussi qui m'intéressait, c'était le fait de l'obsession créée par un être disparu, sans qu'on puisse l'enterrer ou sans avoir un corps. Quand quelqu'un disparaisse, on ne laisse pas de penser à cette personne. Et ça, c'est ce qui se passe avec ma journaliste. Elle est toujours... Elle ne peut pas vivre, elle ne peut pas vraiment mener sa vie, se marier, avoir une profession stable, parce que cette blessure est toujours ouverte en elle. Elle veut savoir la vérité. Et elle est vraiment prise par ses passés, n'est-ce pas ? Et apprivoisée par ses passés, je dirais.
Les guerriers sont parfois amnistiés. Amnistie ?
Une autre question qui traverse les romans et qui est très importante est le fait qu'au Brésil, à un moment donné, après les événements tragiques et durs de la dictature. Dix ans après, on a eu l'amnistie qui a pardonné aussi les militaires que, et les tortionnaires qui ont torturé les guerriers roses, et aussi les guerriers roses qui ont pu revenir au pays. Mais ces pardons de l'amnistie, comme discute Sophia avec un ami philosophe qui s'appelle Marcos dans les livres, cette amnistie mène à une amnésie, d'après Paul Ricoeur. Ça veut dire que les gens ne jugent pas, n'ont pas jugé les militaires. C'est passé, a été. Ils ont passé le cap, ils ont effacé ce passé et sans pouvoir construire une narrative, comme dit Anna Arendt, que je discute aussi très brièvement dans les romans. Anna Arendt, elle parle que ces pardons que l'amnistie a ordonné, il empêche la construction d'une narrative qui fasse que cette société puisse recommencer autrement. Et je trouve, moi, que tous les problèmes qu'on vit aujourd'hui, les difficultés d'établissement de notre démocratie, que les événements plus récents montrent, ont à voir avec la difficulté de...
Je dirais, c'est là que votre livre est très politique aussi, puisque vous racontez comment on peut vivre ensemble si on oublie le passé, si on fait comme s'il n'avait pas existé. Parce que ce sont des lois d'amnistie qui font, bon, on va faire comme s'il ne s'était rien passé.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça.
C'est l'erreur qui est en train de se reproduire en Colombie, avec l'amnistie pour les FARC. Oui, mais on ne peut pas effacer comme ça.
Oui,
c'est... Un décret d'amnistie et effacer l'histoire.
C'est ce qui s'est passé dans plusieurs moments de l'histoire, et ça devient un trauma toujours ouvert. Pour vraiment dépasser, surmonter, ces passés, il faut raconter les choses, il faut construire un récit. On ne peut pas passer à un autre moment si on ne fait pas un dialogue avec la société sur comment elle voit ce que tous ont vécu.
L'histoire est compliquée. Alors, faut-il être historien ou romancier pour la comprendre?
J'ai fait ma formation en histoire et j'ai des amis historiens qui travaillent sur cette époque. Là, ils m'ont dit que à travers les romans, ces élèves comprennent beaucoup mieux l'histoire, ce qui s'est passé, que à travers le récit d'historiens qui sont plus froids, plus distants. Donc, oui, la littérature, c'est regarder le monde par les yeux de l'autre, n'est-ce pas? Donc, quand on rentre dans l'histoire de Sofia, du guerrier Leonardo, on voit les choses comment elles étaient vécues par les contemporains. Et ça, d'après ses amis, ils étaient étonnés de la réaction de ses élèves après lire mon livre. Ils ont dit qu'ils ont compris beaucoup mieux les événements du Brésil récent qu'avec les récits des historiens. C'est ça. Et aussi, j'essayais de construire une histoire qui est bien construite est fictionnelle, elle est de la fiction. Il y a un scénario dans les livres, vous allez voir comme une sorte de film, vraiment. On pourrait facilement écrire un film faire un film avec ses livres comme un point de départ.
Et par hasard, il y a un projet d'adaptation aussi.
Il y a un projet, mais ça a été un peu avorté par ces événements au Brésil. C'est un projet d'un Brésilien. Il y a un bon réalisateur brésilien qui s'est intéressé de faire un film sur mon livre, mais bon, juste après les coups d'État de 2016 l'a rattrapé. Donc, on verra qu'est-ce que ça donne dans le futur. Mais c'est vraiment, je l'ai construit comme un scénario, mais il garde beaucoup d'aspects vrais et réellement vécus, non seulement par les Brésiliens, mais par plusieurs familles, non seulement aussi de la latino-américaine, mais par exemple, les droits ont été achetés en Serbe, en Allemagne, parce qu'ils ont trouvé qu'il y a des points d'identité entre mon livre et les histoires vécues par ces pays.
Et non, contrairement à ce qu'on croit, les guérilleros ne sont pas des héros.
Les choses ne sont pas si... qu'il y a une ambiguïté. Les guérilleros ne sont pas des héros. C'est ce qui montre la révélation finale surprend les lecteurs. Et le lecteur est mené à réfléchir sur ces événements.
Dans un pays de dictature, Guillaume de Gramont se veut avant tout pacifiste.
Que j'ai voulu passer avec mon livre un message très pacifiste. Je suis extrêmement pacifiste. Je suis pour l'élimination des armes dans le monde. Et voilà les messages que vous allez trouver à la fin de mon livre. Je vous assure.
C'est pas un livre de militants politiques.
Non, pas du tout.
Maoïste.
Non, pas du tout. Pas du tout.
Une défense, illustration.
Au contraire, je montre même l'autoritarisme de ces mouvements. Vous avez perçu certainement. Parce qu'il y a le récit d'une guerrière aussi dans les livres, elle n'est pas du tout à l'aise avec toutes ces constraintes de mouvements militaires de gauche, maoïste, qui était très hiérarchisé, très militaire, très... avec une hiérarchie militaire très forte. Et donc, je discute ça, mais doucement, d'une façon très subtile dans le roman. On ne sait pas quel est
de quel côté vous penchez,
oui,
vous penchez d'un côté.
Oui, c'est ça. C'est ça. Je veux montrer les choses comment elles peuvent être, en fait.
Traduire, quelle question.
J'ai deux qui je pense faire traduire prochainement en France. Un est sur mon père, parce que mon père, il est mort... durant la dictature, mais il n'était pas un guerriero, il était un géologue qui a trouvé des mines, des pierres précieuses au Brésil, et sûrement c'était pour ça qu'il a été assassiné, il a été trouvé mort d'une façon mystérieuse, et c'est mon prochain livre. Ce sera publié au Brésil bientôt. Et c'est le livre que je veux faire publier en France.
Et oui, traduire, c'est jamais fini.
Et bon, j'ai des chroniques sur la relation entre les mères et les enfants, mais comment sur la découverte de la parole écrite, la découverte du monde par la littérature, par l'écriture, qui sont très lues au Brésil, très connues, et que j'aimerais bien peut-être faire un bouquin avec ces chroniques et les faire et les publier aussi en France, n'est-ce pas? C'est ça.
Alors voilà, c'était donc une rencontre avec Guillaumard de Gramont que nous avons eue en septembre dernier lors du festival de Collioure. Guillaumard de Gramont, donc je vous rappelle, si vous avez de quoi noter, Les ombres de l'Araguaia, publié aux éditions Métellier. Et il faut toujours rendre hommage au traducteur. Là, c'est traduit par Daniel Schramm. Et maintenant, notre agenda.
Jeudi 18 octobre, poésie, oui, en Montpellier, et la Maison pour tous Chopin, en partenariat avec le Théâtre des 13-20. On a Edith Azam. Edith Azam regarde son chant, il fume une cigarette, lit un livre sur la mécanique des fluides. Edith Azam hausse un sourcil, se dit qu'elle n'y comprendrait rien, qu'il doit sacrément s'ennuyer, son chant, pour être à lire des livres pareils, qu'il ferait franchement mieux de faire comme elle, ranger son os. Et voilà, c'est ce qu'on a là, à Montpellier. Chopin, Maison pour tous. Parler les vertiges des oiseaux, écrire des phrases courtes que l'on tourne jusqu'aux boucles pour qu'elles nous relèvent ou, pourquoi pas, en versant les lettres qu'elles nous révèlent. C'est le dernier ouvrage d'Edith Azam, Oiseau moi, est paru aux éditions Lanskin. La lecture est suivie, attention, d'une scène ouverte. Vous êtes invités donc jeudi 18 octobre à la Maison pour tous Chopin, en partenariat, rappelez-vous, avec les théâtres des 13-20.
Le 25 octobre, ça se passe à la librairie Fière de Lettres, avec la première session d'un cercle de lecture féministe. Ça se passe de 17 à 19h, donc jeudi 25. C'est avec l'association Les Anémones. L'association Les Anémones, c'est une association étudiante, artistique et culturelle féministe. Alors, une rencontre autour de Les Apparences de Gillian Flynn. Voilà, jeudi 25 octobre, librairie Fière de Lettres, rue du Bras de Fer, à Montpellier.
Et on a pour tous un cœur avec les étudiants. Attention, on a les Crous de Montpellier a choisi cette année Olivier Thiabot pour un stage de création de BD. Oui, c'est ça. Les ateliers ont lieu chaque lundi à partir du 1er octobre 2018. Créez votre propre BD avec l'accompagnement personnalisé de l'auteur. Et la BD est un art à part, la 9e, dit-on. La BD permet, avec une économie des moyens, de raconter des histoires, des plus intimistes aux plus fantastiques, des plus abstraits aux plus réalistes. Que vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner à cette pratique ludique qui offre une multitude de possibilités, cet atelier est fait pour vous. Allez-y, il faut juste amener des simples feuilles, des crayons, votre imagination et surtout votre motivation. Ça suffit. Date et horaire, tous les lundis, rappelez-vous, notez-le bien, 19h à 22h à partir du 1er octobre. Peut-être il reste de la place. Salle boutonnée, tram 1. Attention, l'effectif est limité à 12 étudiants. C'est renseigné auprès du CRU de Montpellier.
Alors maintenant, Sommières, oui, à Sommières, c'est pas si loin de Montpellier, Sommières, et peut-être vous nous écoutez à Sommières. Alors, ben Sommières, bonne nouvelle, une nouvelle librairie va ouvrir. Alors, on vous en parle un petit peu en avance. Ouverture prévue le 6 novembre. La librairie s'appelle La Petite Librairie. Un nom tout mignon. Elle sera à 7 rue du Général Bourrière. Alors, pourquoi on vous en parle avant? C'est qu'ils ont monté leur projet aussi avec un financement participatif. Et si vous avez envie de soutenir une librairie à Sommières, il est encore temps. Ils avaient sur Ulule, qui collecte des financements participatifs, Ils avaient un objectif de 5000 euros et ils étaient, il y a peu, à 350 euros de leur objectif. Et vous avez jusqu'au mardi 16 au soir, non, jusqu'au mardi, pardon, jusqu'à mardi soir, pas le 16, mais le 23, pour contribuer. Donc, allez voir leur page Facebook, c'est plein déjà de coups de cœur, de choses enthousiasmantes, une librairie qui s'annonce très bien. Juste un petit mot, comment ils se présentent eux-mêmes sur leur projet Ulule. Nous sommes une équipe motivée et passionnée de lecture. Laure, porteuse du projet Transfuge de l'éducation nationale, a pendant 18 ans défendu avec ardeur la littérature jeunesse et expérimenté sur ses propres élèves et ses enfants ses coups de cœur du moment. Claire, jeune retraitée, bibliothécaire de formation, responsable des acquisitions de littérature en médiathèque, ancienne libraire, grande lectrice et convaincue des multiples pouvoirs du livre, nous aussi. Michel, professeur d'anglais à temps partiel, dénicheuse de pépites littéraires, adepte de la lecture en VO, nourrissait le secret espoir d'ouvrir un jour une librairie et voit son rêve se réaliser en se joignant à cette équipe dynamique, pétillante et pleine de fantaisie. C'est un peu promotionnel, mais sur leur page Facebook, c'est mérité en tout cas. Voilà, c'était notre agenda, c'était Lecture par tous sur Divergence FM 93.9 et bonne lecture. Et à très bientôt. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.